deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous, le président de Delubac Asset Management. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Grégoire.
Merci beaucoup d'être là. Merci à Thierry Leclerc de nous accompagner également. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes le président et fondateur d'AlphaJet Fair Investors, un commentaire de marché sur la situation un peu globale. Thierry, je résume dans les grandes largeurs. On a eu ce creux en avril, ce rebond en mai. Les grands indices, S&P 500, Nasdaq, Stoxx 600 pour l'Europe, ont abandonné leur record historique au mois d'avril. Pour les récupérer un mois plus tard, on a revu des sommets sur ces grands indices larges pour les marchés américains et pour les marchés européens. Est-ce que c'est retour à la case départ? Est-ce que c'est un simple mouvement de consolidation? Ou est-ce que sous la surface, il y a quand même des choses qui ont changé pendant ces semaines de latéralisation, comme disent les analystes techniques, Thierry?
Oui, il se passe toujours plein de choses sous la surface, effectivement, et c'est ça qui est effectivement intéressant de regarder de plus près. Nous, ce qu'on voit précisément, c'est que il y a un rebond très fort des plus petites capitalisations, voire des micro-capitalisations. Alors évidemment, ça a beaucoup moins d'impact sur les indices que les gros poids des indices, mais ça rebondit très fortement. Et donc ça, c'est plutôt un signe quand même positif. Et en tout cas, c'était une jambe clairement qui manquait, puisque la situation, enfin juste, je refais le film aussi
bien
très
sûr.
Rapidement.
Oui.
Depuis le premier trimestre, enfin entre le premier trimestre 2021 et le septembre, octobre, enfin l'automne 2023. On a pratiquement une baisse, enfin vraiment la pente, elle était raide et non-stop.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça, enfin il y a eu un énorme de-rating et puis quand on regarde aussi, c'est intéressant, il n'y a pas eu forcément de distribution. C'est-à-dire que, en fait, les volumes étaient assez faibles. Donc, il n'y a pas eu de mouvement de capitulation. Donc, ça veut dire que, en gros, ce que ça veut dire concrètement, c'est que les gens ont subi, enfin, les investisseurs plutôt
c'était
ont subi.
C'était bleeding, comme disent les anglo-saxons.
Exactement.
Ça saignait en continu.
Ça saignait en continu et sans qu'il y ait de pic à la rigueur qui purge tout. Et c'est pour ça aussi que ça a été aussi long.
Ah,
et là,
ouais.
Quand même, la bonne nouvelle, c'est que depuis à peu près donc, la fin de l'année 2023, et plus précisément depuis mars 2024, il y a une accélération et on voit ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire bon, comme le nom l'indique, notamment des hedges, etc., qui reviennent et donc on voit les volumes qui repartent à la hausse. Donc ça, c'est un mouvement donc, d'accumulation qui est reparti. Donc même si, alors au début, effectivement, on ne voyait pas grand-chose, mais là, depuis en gros un mois, les indices ont très fortement
rebondi. Le CAC Small prend plus de 9%, je crois, au mois de mai. Hein.
Ouais, peut-être un petit peu. Oui, pardon.
Ouais, ouais.
J'ai pas regardé, mais à l'échelle européenne, on est en tout cas, il y a une surperformance notoire. Et en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que on a l'ordre exactement. L'ordre,
alors, c'était ça ma question.
Le quarté inverse,
d'accord.
C'est-à-dire que les grandes capitalisations.
Plus c'est petit, plus c'est remonté, quoi.
Voilà, exactement. Donc le bêta. En tout cas, il y a eu un bêta très important dans le mouvement baissier des petites capitalisations versus les grandes. C'est-à-dire, en gros, elles ont beaucoup plus souffert, ce que j'ai dit précédemment. Et là, c'est pas que le marché, il est à peu près étal, effectivement, depuis deux mois, mais bon, il y a quand même de la volatilité, il y a quand même eu des mouvements entre-temps. Mais c'est vrai que là, pour le coup, on a un rebond très fort. Et donc, c'est quand même plutôt bon signe pour le marché, parce que, les petites capitalisations... c'est que l'économie quand même, en tout cas en Europe, va mieux. D'ailleurs, on voit les indices d'enquête se redressent progressivement. L'inflation, c'est pas exactement où voudraient les banques centrales. Enfin, je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, c'est le mouvement, il est quand même bien enclenché.
On n'est plus à 10, quoi.
Exactement. Oui. Donc, on parle de dixième de baisse d'inflation. Bon, il y a des sujets. Hein. Je ne dis pas que tout doit être écarté d'un revers de la main. Mais bon, en tout cas, la macro, ça va un peu mieux. Ça se traduit dans des enquêtes qui se redressent. Et le sujet quand même de l'inflation se détend et ça permet donc, ce que vous disiez en introduction, à la BCE de pouvoir pratiquer sa première baisse, ce qui est effectivement un catalyseur très important pour pour les petites capitalisations, parce que là, pour le coup, elles sont fait complètement arracher par ce mouvement de lutte contre l'inflation qui était mené par les banques centrales globalement et notamment la BCE. Et donc là, ça, c'est très pénalisant pour elles. Il faut savoir juste un élément. Pourquoi ? C'est vrai, on peut se poser la question. C'est les petites capitalisations, donc les petites sociétés, ont beaucoup plus de dettes à taux variable que les grandes capitalisations. Donc, évidemment, quand les taux remontent, c'est elles qui souffrent plus que les grandes capitalisations qui sont sur des taux fixes.
tous ces alignements de facteurs vous font dire que c'est possiblement un vrai redémarrage pour ce compartiment, alors qui va des micro-cap au mid-cap. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même une échelle de taille également en dessous de l'indice CAC 40, si je prends la référence française, mais c'est pareil en Europe. Il y avait eu un petit faux départ en fin d'année dernière. Là, c'est une situation différente cette fois.
Oui, alors faux départ en absolu, en tout cas. On avait vraiment en fait, donc ce qu'on appelle une base,
ouais.
C'est-à-dire que, mais on, enfin d'ailleurs, enfin j'étais passé sur le plateau et j'avais dit, je pense que le de-rating est fini,
est terminé,
voilà. Et maintenant, on attend la prochaine étape. Et là, depuis mars, en gros, enfin, oui, un mois et demi,
ouais, c'est ça.
Mi-mars plus précisément, on est effectivement, enfin, bon, nous, c'est ce qu'on voit.
Donc, vous avez une stratégie micro-cap. Hein,
on a une stratégie micro-cap, donc évidemment, on suit ça comme
bien sûr.
Sur le feu. Et une aussi petite capitalisation mondiale. Mais bref, en tout cas, le mouvement, il nous semble être puissant. Et là, on ne parle plus de fin, enfin de base et de fin de de-rating. On parle vraiment de réappréciation à venir.
Ouais.
En tout cas, pour dire les choses clairement, chez nous, tout flash vert, comme on dit. C'est quand on regarde nos écrans, on compile différents indicateurs, on croise les valos, etc.
Tout s'améliore, quoi.
Tout s'améliore et tout est au vert.
Alors bon, et sur un fonds small cap monde, c'est ce que vous dites là, c'est vrai, c'est une généralité qu'on peut extrapoler effectivement à l'ensemble du monde.
Oui, tout à fait.
D'accord. C'est
tout
pas juste français ou européen.
Non, français, européen. Non.
Ça va au-delà.
Ça va au-delà. Les petites capitalisations reprennent du poil de la bête globalement au niveau mondial.
Bon. C'est un marqueur, effectivement, de ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benoît? Et puis, plus généralement, qu'est-ce que vous retenez de cette phase de consolidation, comme je le disais, si on considère avril et mai comme étant cette séquence de consolidation pour les actions, notamment?
Oui, alors, sur la partie small mid, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque ça élargit la base, les sources de hausse du marché. Et c'est probablement le moteur dont on a besoin pour poursuivre ces mouvements de hausse sur les marchés actions, puisque progresser sur quelques valeurs, et on parlera peut-être aux États-Unis, c'est jamais très sain. Hein. Il y a un moment, il y a toujours des limites. Donc là, c'est plutôt un bon signe encourageant. J'ai une réserve ou une prudence encore, puisqu'on voit bien que les banques centrales n'ont pas fait du tout ce qui était anticipé en début d'année. Hein. C'est-à-dire, alors, le marché a été beaucoup trop loin dans ses anticipations en début d'année. On attendait jusqu'à plus de 6 hausses aux États-Unis, 6 baisses aux États-Unis de taux directeurs, ce qui était important, rapide, etc. On n'a rien eu. Il n'est pas sûr qu'on en ait une. On devrait en avoir une, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Les marchés ont bien résisté jusque-là. Ça, il faut le constater parce que, en fait, l'économie résiste bien et c'est l'explication de cette absence de baisse de taux directeur. Mais donc, ce moteur dont on parle, qui est essentiel pour les small et mid, il s'enclenche, mais de manière assez timorée. Heureusement, la BCE maintient bien son discours et est assez volontaire pour une fois, se met pas dans la roue de la Fed. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour la zone euro. Mais elle risque d'être un petit peu limitée dans son mouvement. Hein. On n'est pas dans le grand cycle de baisse des taux directeurs qu'on attend. On est dans un premier mouvement. Il y en aura probablement un deuxième. Il est justifié par une économie qui est, j'irais, pas en danger, mais j'irais un peu en stagnation. Rien de plus, donc ça ne nécessite pas plus. Et donc ce moteur, en tout cas cet indicateur, ce n'est pas le seul, hein, sur les small et mid dont on a besoin, on ne l'aura peut-être pas entièrement. Après, il y a d'autres éléments hein, de revalorisation des marchés. On l'a dit tout à l'heure, c'est des marchés hein, qui ont tellement été en retard en termes de valo par rapport au reste des large caps qu'il était heureusement qu'à un moment donné, ce mouvement se fait. Mais il y a énormément de marge derrière. Et pour qu'elle s'exprime, il faudra sûrement encore un peu de temps.
Ouais. Mais c'est intéressant parce que vous dites, le marché, un peu d'humilité, a appris la prudence sur l'idée des baisses de taux, d'une certaine manière. Et pour l'instant, les banquiers centraux ne parlent pas d'un cycle rapide de baisse de taux pour neutraliser la politique monétaire. On est vraiment sur du pas à pas. Ça, vous dites, il faut bien le prendre en compte quand même dans ce qu'on factorise pour la suite.
Oui, et c'est ce qui explique un peu ces espèces de stabilisation ou de hausse puis de baisse qu'on a depuis quelques semaines maintenant. Le marché, il hésite entre deux scénarios. Soit j'ai des banques centrales hyper vigilantes sur l'inflation et elles attendront vraiment de gagner face à l'inflation et ça va être dur parce que les derniers dixièmes de points sont les plus durs à obtenir et donc ça passera peut-être par des effets sur la croissance et un ralentissement un peu plus important. Ça, c'est pas le bon scénario à court terme pour les marchés. Soit au final, bon an mal an, comme toujours, comme pour le moment, ce qu'on constate, on a une croissance qui résiste, qui se tient bien. elle nécessite pas plus que ça
d'intervention
du directeur, ouais. Au final, et on arrive à sortir par le haut. Ça, c'est le scénario idéal. Mais pour le moment, entre les deux, on n'a pas d'éléments suffisants pour réellement trancher, et ça reste fragile.
Mmh. Ouais, j'entends. Ce qui générerait une accélération des baisses de taux des banques centrales, ce serait effectivement quelque chose de plus négatif peut-être sur l'activité économique et sur la croissance.
C'est le risque. Alors, les banques centrales, alors, les États-Unis en particulier, hein, ces deux indicateurs principaux, c'est où est l'inflation actuellement, le core CPI, le PCE, et puis où en est le taux de chômage. On n'a pas d'éléments suffisamment convaincants pour se dire ça y est, on y va, on a les marges de manœuvre qu'il faut. Mmh. Enfin, c'est pas vrai.
Je reviens à l'univers des small et mid cap, mais si vous voulez bien, Benoît, ce qui a aussi marqué ce regain, ce rattrapage, ce début de rattrapage des small et mid cap, c'est aussi l'animation de la cote à travers des opérations sur capital, à travers quelques introductions en bourse, on pourra l'évoquer, et puis effectivement une matérialisation de la valeur de certaines entreprises cotées, le dernier exemple en date étant Neoen. Je parle d'une sortie de cote à venir de Neoen rachetée par le Canadien Brookfield pour plus de 6 milliards d'euros sur la base d'un multiple qui valorise l'EBITDA 18 fois. On est dans le secteur du renouvelable. C'est une opération marquante, je trouve, à plusieurs égards.
C'est un très bon exemple. Ça montre bien, un, que, heureusement, hein, les sous-valorisations peuvent pas être continuelles. Hein, c'est-à-dire que c'est pas bleeding comme ça éternellement. Et à un moment donné où il faut quand même que le marché se rende compte qu'il y a de la valeur, hein, en particulier sur le renouvelable, hein, on a des budgets dans les États, on a des lignes de route à suivre pour les 10, 20, 30 prochaines années.
Il y a
années.
3 mois, ça ne se payait rien, le renouvelable.
Paradoxalement, c'était les grands perdants, ce qui était assez paradoxal. Donc là, on a des acteurs qui ne sont pas sur le marché, qui jouent leur rôle, et tant mieux, et qui sont capables d'aller reprendre des entreprises qui constatent vraiment sous-valorisées, alors qu'il y a des perspectives, et qui permettent alors, à ce moment-là, indirectement au marché, de se revaloriser. Donc ça, c'est très sain, hein, parce que quand vous avez un acteur qui se positionne de manière claire, l'ensemble du marché sait à peu près où aller. Hein, et donc les autres titres en bénéficient. Donc là, c'est une manière assez saine de revaloriser le marché et de repartir à la hausse sur des valeurs qui, c'était les grands perdants de l'après-Covid.
Hein, oui, il y a eu la bulle verte, hein, voilà. C'est ça, à un moment, et puis derrière, ce que Neoen a dû valoir pendant au pic de la bulle verte, c'était à plus de 60 euros, je crois, Neoen. Hein. Voilà, donc ça, c'était peut-être pas la valorisation de référence, elle est à 39,85 précisément pour le prix, l'offre de retrait qui sera faite dans les prochains jours. Mais oui, ça permet quand même de marquer un petit peu les esprits et les valorisations de ce secteur. Il faut en passer par là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre choix que de voir Neoen sortir de la cote 6 ans seulement après être entré. Quand je pense à des entreprises qui sont cotées depuis parfois un siècle ou plus, je me dis que 6 ans à l'échelle d'une entreprise, c'est court, quoi.
C'est court. Ils le recoteront peut-être plus tard.
C'est vrai.
C'est possible.
Ouais.
Donc ça, l'histoire n'est pas terminée, évidemment. Le marché, il est fait de différents acteurs qui agissent sur le marché coté ou sur le non coté. Et tant mieux dans ce sens-là, parce que là, ça diversifie les intérêts et ça permet aussi de revaloriser. Après, de toute façon, que ce soit sur le non-coté ou sur le coté, sous-tend derrière cette politique des taux directeurs qui sera quand même le grand catalyseur derrière pour avoir ce fameux mouvement de poursuite de la hausse qu'on aimerait bien avoir. Donc, ces investisseurs-là ont plus de temps devant eux, ils ne sont pas cotés tous les jours, ils ne sont pas valorisés tous les jours, donc ils peuvent permettre d'être un petit peu en avant de phase de ces politiques de taux directeurs et de capter les opportunités, ce qui est assez, je pense, assez intelligent de ce côté-là. Mais il y a bien ce scénario derrière qui, petit à petit, permet au final, sur la partie côté et non côté, de retrouver de la valorisation.
Ouais. Sur le dossier Neoen, alors peut-être spécifiquement autour de Neoen, hein, c'est une histoire quand même formidable. Une nouvelle exit spectaculaire de Jacques Vera, il faut quand même le dire, qui est peut-être de ce point de vue-là un des plus grands entrepreneurs français, peut-être un peu sous-estimé ou sous-médiatisé, j'allais le dire. Et puis, ce que ça nous dit aussi pour le segment des renouvelables, là aussi, Thierry.
Tout à l'heure, je parlais de smart money. Là, je pense qu'effectivement, il y a des investisseurs. Alors là, c'est plus gros, évidemment, c'est pas. C'est parce que les tailles des dossiers sont quand même costaudes. Et puis là, surtout, c'est des sorties de cote dont on parle. Donc, c'est, c'est la troisième boîte de renouvelables en Europe qui sort de la cote depuis le début de l'année. Donc, effectivement, il devait y avoir un petit hiatus entre les fondamentaux, la qualité des boîtes, ce qu'elles font, ce dont on parle toute la journée à juste titre sur le trouver d'autres sources d'énergie. On est d'accord là-dessus. Et puis, la valorisation qu'en faisait la bourse à ce moment donné. Bon, après, la Valo, elle est ce qu'elle est. Mais effectivement, quand on a cette capacité à s'extraire du ce qu'on appelle le bruit et de se projeter, eh ben, je pense qu'il y avait des dossiers qui étaient intéressants. Et c'est vrai que Neoen, depuis qu'ils sont introduits, je les connais bien, je les suis. Ouais. J'étais investisseur à l'IPO. Donc, effectivement, c'est une boîte de très grande qualité. C'est un peu triste pour la cote parce que justement, ça faisait quand même une boîte avec beaucoup de croissance, un management de très grande qualité, des projets innovants en Australie, etc. Donc ça nous permettait quand même d'être aussi.
C'était un flagship, il faut le dire quand même. Ce que la France peut produire en termes d'innovation, etc., sur le segment de l'énergie renouvelable.
Que ça soit coté parce que du coup, on en parle. Là, c'est vrai que bien sûr que les renouvelables ne vont pas disparaître. C'est pas ce qu'on dit, mais ça, c'est moins. Il y aura plus ces publications, puis ces rencontres aussi avec les investisseurs. Il y a une partie d'évangélisation des investisseurs, les fameux roadshows. C'est très fastidieux pour les managements, mais quand même, c'est un gros avantage pour justement susciter l'intérêt et expliquer ce qui se passe pour tous les investisseurs fondamentaux. Donc, bref, tout ça, c'est une bonne nouvelle pour la boîte parce que la Valo, clairement. Sûr. Même si on s'extrait, alors il y a eu un pic, effectivement, je crois que c'était 65 euros il y a 2-3 ans. Mais là, bon, c'est plutôt quand même une valorisation, on va dire, pleine. En tout cas, il n'y a pas, de scandale sur cette valorisation-là, il me semble. Donc c'est une bonne nouvelle pour le management et pour l'investisseur initial. Bravo à lui, effectivement.
Est-ce que ça veut dire, Thierry, qu'il y a des dossiers qui sont faits pour la bourse et d'autres peut-être un peu moins, parce que ce sont des dossiers, alors effectivement, avec un aspect financier sur des projets très importants, et quand les taux bougent comme aujourd'hui, peut-être que la bourse a du mal à reconnaître la valeur de ces entreprises. Est-ce que c'est parce qu'on est sur des marchés qui potentiellement peuvent être du jour au lendemain très réglementés aussi en termes de prix, que la bourse a du mal à valoriser ces groupes-là? Ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui rachète le Canadian Brookfield, c'est un spécialiste des infrastructures.
Tout à fait. C'est correct.
C'est pas du private equity lambda, quoi. Mmh. C'est quand même quelqu'un qui a l'habitude, justement, de ce temps long des infrastructures et du déploiement de gigawatts, en l'occurrence, puisqu'on parle d'énergie, là.
Moi, je pense que tout a sa place sur la cote. Et effectivement, enfin, il y a des boîtes hyper cycliques qui vont être tout d'un coup sur le devant de la scène, qui vont faire x2, x3. Et nous, quand on est investisseur, bon, évidemment, on les capte pas toutes, mais bon, c'est ça. Tous les ans, il y a une boîte, quand on regarde la cote, qui a doublé, triplé. Ça veut dire qu'il s'est passé des choses. Et peut-être que Neoen, j'en sais rien, on va pas du tout refaire le film ici, mais était sur une trajectoire et on aurait pu revoir les 65 euros dans un an. J'en sais rien, évidemment. Ah ouais. Mais bon, donc pour moi, tout a sa place. Quand on redéboucle plutôt initialement, pour le coup, je vous dis, j'avais bien suivi ce dossier-là, ils étaient quand même très contents de s'introduire. Ils ont levé du capital,
c'est sûr. Plusieurs centaines de millions.
Voilà, ils ont été appelés le marché. Donc pour le coup, le marché a joué son rôle d'accompagnement.
La bourse a parfaitement joué son rôle de financeur.
Après, il y a eu de la vol. Est-ce que. Alors effectivement, on ne voit pas, on n'a pas un print de Valo tous les jours dans un fonds infra, ça, on est d'accord. Mais d'un autre côté, on n'a pas la capacité à l'élever aussi sur les marchés, sur une opération le soir à 17h30, les brokers vous appellent et normalement, si le dossier de qualité, on peut lever plusieurs centaines de millions d'euros. Donc les investisseurs sont quand même là et je vous dis à la fin, c'est vrai que c'est un petit peu triste, enfin ça c'est personnellement.
Oui, mais aussi j'ai un peu ce sentiment mitigé, mais je suis ravi pour les actionnaires de Neoen qui profitent de cette revalorisation du prix. Juste sur Brookfield, pour finir, très intéressant parce que ça permet de faire le lien entre renouvelables et Nvidia, parce que la consommation énergétique liée à la puissance de calcul au data center va exploser avec l'accélération de l'IA et ces boîtes d'énergie renouvelable et notamment de solaire. sont en train de devenir les premiers fournisseurs d'électricité de ces sociétés dédiées à l'intelligence artificielle. Et donc Brookfield a noué un partenariat, je crois, historique de ce point de vue-là avec Microsoft pour fournir plus de 10 gigawatts d'énergie, je crois, sur un temps très très long, d'énergie renouvelable et notamment de solaire.
C'est tout à fait.
Il y a une corrélation très forte.
Il fallait faire ce lien-là. Ah ouais. Donc bravo de l'avoir fait. Effectivement, la bonne tenue. La tech, justement, quand vous demandiez les marchés, ce qui se passe en dessous de la surface, il s'est passé aussi beaucoup de choses dans la tech. C'est pas du tout... on parle d'NVIDIA, et toujours à juste titre, parce que c'est une révolution en marche, et donc c'est hyper intéressant. Mais par contre, c'est pas du tout généralisé, voire même il y a des pans entiers de la cote tech qui
souffrent. Dans le software. Ce qui est intéressant, c'est que le renouvelable rebondit avec le driver de l'IA au moment où le software et le logiciel, enfin c'est fond, je caricature, mais oui, Salesforce, Dell et autres, là, se sont pris quand même des sacrés gadins ces derniers jours. Hein.
Exactement. Donc c'est intéressant, voilà, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, et même en Europe, plus précisément, il y a un Dassault Systèmes qui est en baisse de 17% depuis le début de l'année, alors que SAP, c'est pas tout à fait la même chose évidemment, est en hausse de 21%, il y a une boîte comme STM qui perd 14%, alors on peut se dire, Nvidia donc a fait x2, enfin un peu plus même que x2 depuis le début de l'année, donc il se passe plein de choses, effectivement d'avoir le label IA, ça sert... Et aujourd'hui, on est vraiment dans la phase où c'est les fournisseurs, donc les fameux vendeurs de pelles et de pioches qui en profitent. Mais tout l'écosystème est en train de se mettre en place. Hein. 40% des puces de Nvidia, les fameuses, les puces qui servent à faire tourner l'IA générative, elles sont achetées par Microsoft, Apple et Alphabet.
Il n'a même pas commencé... Enfin, si, il produit la Blackwell, mais il n'a même pas commencé à livrer la Blackwell au marché, qu'il est déjà en train d'annoncer Robin, qui sera donc le prochain GPU pour 2026. Un par an, maintenant.
Et ça fait du bien, d'ailleurs, au cours de bourse. Ça fait un trigger de plus. Enfin, en tout cas, ça alimente l'histoire du titre en bourse.
Bon, clairement. Nvidia qui devient quoi ? Un ovni, Benoît ? Parce que plus le temps passe, et pourtant c'était une discussion qu'on avait, y compris avec vous, je me souviens, il y a peut-être un mois ou deux de cela, l'idée que la base du marché américain allait s'élargir un petit peu au-delà des 7 magnifiques, etc. Alors on en parle beaucoup moins des 7 magnifiques, mais il reste quand même encore Nvidia. Et quand on regarde notamment la performance du S&P 500 équipondérée par rapport à la performance du S&P, bon, c'est catastrophique. Certains analystes chez Bank of America notent qu'on n'a pas vu ça depuis 2009. Quoi.
Oui, ça
laisse songeur quand même.
C'est une difficulté pour le marché US, là où le marché européen est plus élargi. Hein, alors, il l'était déjà originellement, il est un peu plus avec les mouvements qu'on vient d'expliquer, tant mieux. Le marché US, il est de plus en plus focalisé sur quelques valeurs, voire sur une, ce qui effectivement interroge un peu sur la qualité de la hausse. Hein. Après, ça ne remet pas en cause les perspectives d'Nvidia, c'est ce que l'on dit tout à l'heure, hein, dans cette ruée vers l'or. Il faut des fournisseurs de matériel. Nvidia est le premier, et pour le moment, quasi le seul. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Il a encore de belles perspectives devant lui. Et puis on voit bien, il accélère, comme vous le disiez, il accélère sa production parce que, bon, il voit quand même venir des concurrents qui, un jour ou l'autre, vont quand même se positionner. C'est assez logique. Donc là, ça interroge sur la qualité de la hausse sur les US. Donc une certaine prudence côté-là, avec en plus une Fed qui est quand même plus strict qu'en zone euro, et qui montre bien, là où on imaginait, nous, de notre côté, qu'il y aurait probablement une hausse un peu politique, enfin une baisse de taux directeur un peu politique avant les élections, histoire de dire, vous inquiétez pas, tout va bien, et qu'elle ne soit pas accusée de quoi que ce soit. Bon, on ne l'aura même pas, celle-là. Ouais. Hein. Donc ça montre bien qu'elle est assez vigilante. Donc ça interroge sur cette qualité de hausse. Ça ne remet pas en cause, hein, effectivement, ce qu'on vient de dire, c'est tout un pan de gens de sociétés qui vont bénéficier de cette émergence de l'IA, et c'est une vraie nouveauté. Hein. Mais après, c'est toujours pareil, hein, y a ceux qui fournissent, et puis il y a ceux qui doivent trouver. Pour le moment, ceux qui doivent trouver, ils ne trouvent pas tout de suite, et ce n'est pas en deux trimestres que vous allez trouver. Hein. Ça, c'est aussi ce que le marché s'est un peu rendu compte, c'est-à-dire qu'il fallait absolument, dans les conférences, parler d'IA. Sinon, vous étiez has-been, c'était fini. Le problème, c'est qu'entre parler et avoir des effets concrets dans votre activité, ça va prendre encore quelques trimestres. Alors, ça arrivera.
D'où la déception sur les logiciels, par exemple, dans
le secteur. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Ça va venir. Hein. Mais voilà, le marché Alors, c'est emballé à juste titre, c'est une vraie révolution, hein, mais on en a. Alors, il y a toujours des effets d'annonce qu'il fallait absolument avoir, il fallait absolument dire qu'on avait des projets sur l'IA.
Ah bah oui.
Ça a été fait. Maintenant, la réalisation va prendre probablement quelques trimestres pour qu'on commence à en voir des effets concrets. Et ils ne seront peut-être pas exactement là où on le pense non plus. Hein. Donc ça aussi, ça va être à intégrer par le marché. Donc ça, c'est plus une phase. Je dirais, les grands GAFA, ils ont un peu les clés de ces marchés-là entre leurs mains, quand même. Hein. Il faut pas les reléguer après un trimestre de temporisation de côté. Alors c'est aussi une difficulté. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez quelques acteurs qui détiennent tout le marché. Jamais bon, on préfère toujours un marché diversifié, concurrentiel, où de nouveaux acteurs peuvent arriver. Bon, ça, c'est pas résolu aux États-Unis. C'est une force et une faiblesse en même temps.
Ouais, j'entends. Bon, dans ces moments de rupture technologique, on nous apprend qu'on surestime toujours à court terme l'impact de ces changements technologiques et on a plutôt tendance à sous-estimer les impacts à long terme. Donc on verra où on en est, comment le cycle se forme effectivement autour de l'adoption de l'intelligence artificielle. Je reviens aux opérations sur capital. Est-ce que là, il y a une fenêtre de tir? Alors, on parlait du rachat de Neoen, mais il y a aussi des entreprises qui viennent en bourse, Benoît. Est-ce que oui, la fenêtre de tir est ouverte? Au moins pour quelques temps, j'allais dire en Europe, avec, on en revient toujours, la perspective de baisse de taux. Est-ce que ça aide à délivrer ou débloquer des dossiers qui attendent peut-être pour venir tester la bourse?
Ouais, clairement, ça aide, parce qu'on voit bien que la phase de hausse des taux directeurs, elle est clairement derrière nous maintenant. Ça, c'est acté.
Ouais. Hein,
et ce mouvement de jeudi, il va l'inscrire dans le marbre. Donc, c'est clair que quand vous avez des dossiers qui traînent un peu, qui sont en attente, parce qu'on se dit qu'il faut trouver le bon moment pour les présenter, le discours est plus facile auprès des investisseurs dans ce contexte-là maintenant que dans le contexte précédent de hausse des taux directeurs et puis d'un point d'inflexion qu'on ne trouvait jamais. Hein, donc là, évidemment que ça aide et c'est une bonne chose parce qu'il y a de l'appétit. Ça montre bien qu'il y a des investisseurs qui ont des liquidités malgré tout et qui sont prêts à y aller. Donc ça aussi, c'est plutôt sain, ça diversifie le marché, ça redonne de la valorisation. Donc c'est plutôt, tout ça est plutôt une bonne chose, ça remet en place ce qu'on imagine comme élargissement de la cote hein, sur des nouveaux moteurs de croissance qui sont en train de se mettre en place et qui préparent le mouvement suivant tel qu'on l'imagine. Alors ce qu'on a plutôt en tête, c'est une temporisation malgré tout, parce qu'on va rentrer dans une phase estivale où ce sera peut-être un peu plus compliqué d'avoir des bonnes nouvelles, qu'on n'aura pas ce moteur ou plus ce moteur des taux directeurs, parce que la BCE va peut-être faire un discours un peu ambigu.
Hein. Oui.
Je baisse mes taux directeurs.
On a compris qu'elle ne les baisserait pas en juillet,
voilà,
pour dire des choses.
mais attendez un peu ensuite.
Ah ouais.
Voilà, donc on aura cette phase un petit peu de latence qui ne sera pas très agréable. On se rapprochera des élections US avec, on imagine, encore quelques décisions hein, à l'emporte-pièce. Je rajoute des taxes par-ci, par-là, des taxes aux entrées de produits chinois, ouais, par exemple, hein, et je double et je triple,
j'ai
tout hein, dans ce genre de petits jeux-là. Donc voilà, ça rajoute un petit peu de flou. Donc ça serait propice à une période un peu de légère baisse. C'est pas des mouvements de panique parce que la croissance est là. Mais tout ça, tout ce qui se construit là est plutôt sain.
Ouais. Sur les introductions en bourse, on parlait de la sortie de Neoen, mais il y a aussi des nouvelles sociétés qui arrivent en bourse. C'est quelque chose qui peut d'ailleurs gagner un peu en traction.
Oui, Thierry. Alors bah, écoutez, j'ai pas regardé précisément le dossier, l'Exosens qui va s'introduire.
Donc ex-Photonis. Hein.
Exactement. De ce que je comprends, ça a été présenté comme ça quand les Américains l'ont racheté, enfin voulu le racheter,
Oui, ça a été retoqué, refusé.
Ça a été retoqué.
Stratégique, on est dans la défense notamment.
Exactement, et que c'était une pépite, en tout cas une société étendard avec une technologie que bah, visiblement si les Américains étaient prêts à sauter le pas.
Personne ne s'est battu en Europe. Hein. Alors si, c'est allé dans un fonds européen, enfin c'est le fonds de Jean-Bernard Lafontaine.
Ouais.
Mais bon. À l'époque où il fallait quand même apporter du capital à Photonis, le private equity et les fonds européens ne se précipitaient pas, visiblement.
C'est vrai.
Non mais,
c'est vrai.
Je veux dire,
alors, entre-temps, donc moi, plus globalement, sur le secteur de la défense. Donc, puisque, en fait, souvent, on a énormément, et à nouveau, à juste titre, parlé de Nvidia, de la tech, mais il y a un secteur, il me semble, dont on parle très peu, peut-être pour des questions éthiques, mais en tout cas, en bourse, quand on isole, alors il y a très peu de pure play. Là, ça en sera un. Mais en tout cas, il y a très peu de pure play. Mais quand on enlève Airbus, qui, bon, quand même, c'est difficile de le considérer comme une valeur de défense. Donc, quand on cherche vraiment les boîtes qui sont plus profilées défense, la performance depuis donc avant le début du conflit en Ukraine, c'est 3, ça a été le
fois 3.
Fois 3.
D'accord.
Fois 3, donc en
depuis
un peu
février
plus,
2022, depuis exactement. En 2 ans, quoi.
Un peu plus de 2 ans. Et depuis le début de l'année, plus 52% en Europe. Donc, c'est le premier secteur. Eh ben, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, donc, on a regardé d'un peu plus près. Ouais. Faut quand même, enfin, moi, j'étais un peu surpris parce que la part qui était consacrée à la défense dans le PIB jusqu'à la fin de la guerre froide, donc tout début des années 90, c'était 3%.
Où ça ?
En Europe, pardon.
En Europe. D'accord.
Et là, en fait, ça, heureusement, hein, les dividendes de la paix, enfin de la paix, etc. Oui, oui, oui. On est tombé à 1,6% en 2015, et c'est en train de remonter, sachant qu'il y a eu bien sûr le débat qui a pour le coup été mené, je pense à juste titre, par Donald Trump sur nos budgets qui n'étaient pas suffisants et qui disait que les États-Unis...
Ça a sans doute été un wake-up call salutaire.
Ça a été un... Voilà.
Très en bien. 2016.
Exact. Non, mais... Oui, oui, voilà. Non, mais il faut le dire aussi. Et depuis lors, effectivement, les budgets remontent. Et il y a aujourd'hui, il y a 10 pays en Europe qui sont également membres de l'OTAN qui sont à 2%
plus
ou 2. Plus.
D'accord.
Voilà. Donc, ouais. Et donc, ce mouvement-là, pour donner juste un chiffre, 270 milliards d'euros de dépenses donc dans la défense en Europe, hors UK. Et c'est exactement le même montant qu'en Chine. 270 milliards. Et le budget...
Sur une année,
voilà. En 2023,
Okay.
Le budget de la défense aux États-Unis.
Je crois 500
850 milliards de dollars. Je suis en euros, pardon. En euros, 850 milliards d'euros. Tous ces chiffres, c'était en euros aux États-Unis. Bon, alors évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, mais... Et la progression en 2023, c'est 30 milliards, plus 30 milliards de budget en Europe.
C'est un thème, d'investissement.
C'est tout ça pour vous dire qu'il y a un thème d'investissement et effectivement, il y a des boîtes. Donc je précise bien que je n'ai pas regardé le dossier, donc je pense quand même de qualité qui s'introduisent sur une thématique, enfin dans un secteur qui est très attractif en ce moment.
Après, vous l'avez très bien dit, Thierry. Oui. Pourquoi est-ce qu'on en parle peut-être trop peu ? Parce que on ne sait pas si c'est ISR, on ne sait pas si ça peut aller dans des fonds article 8, 9, etc.
Si, la réponse, elle est claire. On peut tout à fait investir dans des sociétés. Y a pas... Donc là, il faut être très clair. C'est un choix personnel d'investir ou pas. D'accord. Dans la défense. Et moi, évidemment, c'est comme le degré de risque.
Mais c'est une question qu'on pose au client. C'est le client qui a la décision et la réponse à cette
donc,
question.
Des exclusions. Évidemment, des armes controversées qui ont été mises en place de longue date. Et ça, je pense qu'il n'y a pas
de... C'est les premières exclusions. Donc, alcool, tabac, armes controversées.
Voilà, armes controversées. Donc, il faut quand même bien avoir en tête que... On parle d'armement, mais dans l'armement, il y a des armes qui sont sales. Voilà, en tout cas, qui sont ce qu'on appelle controversées.
Mines antipersonnelles, etc. Il y a toute une liste, effectivement, précise.
Toute une liste précise. Ouais. Et donc, aujourd'hui, la plupart des sociétés cotées, en tout cas en Europe, c'est le cas, n'investissent plus là-dedans. Donc, après, bon, c'est une question personnelle, comme je l'ai dit, mais c'est, en tout cas, plus 50% depuis le début de l'année, ça veut quand même dire qu'il y a un appétit et que... Et c'est en Europe en plus. Et, c'est un autre élément important que j'ai aussi à mettre sur la table, c'est que la défense en Europe versus la défense aux États-Unis, donc quand on à nouveau en isole, on fait vraiment un panier spécifique, elle est aujourd'hui la performance sur 10 ans, elle est supérieure en Europe versus les US. Donc pour une fois... Alors, malheureusement, je ne sais pas, chacun a son jugement là-dessus, mais la défense en Europe performe mieux sur longue période et sur courte période, hein, puisque aux États-Unis, on est à plus 11 depuis le début de l'année, donc plus 52 en Europe. Et donc, ça veut dire que si les investisseurs étaient si bloqués que ça en Europe, puisqu'on considère que l'ESG est surtout européen, il n'y aurait pas eu ces mouvements-là. Ouais.
Benoît, puisqu'on parle de budget, disons un mot de cette agence qui a dégradé... le double A français. Donc c'est double A moins maintenant chez S&P pour la note de crédit de la France. Bon, on va pas en faire des caisses, il nous reste 5 minutes, mais qu'est-ce que ça révèle et comment ça résonne aux oreilles d'un investisseur qui avait pas de doute sur le fait que le marché, j'imagine, avait déjà intégré la réelle notation ou la réelle qualité crédit d'un souverain comme la France par rapport aux autres en Europe aujourd'hui.
Non, alors effectivement, il n'y a pas un coup de tonnerre ou tout d'un coup des marchés qui tombent de haut. Hein. C'est une petite musique qui traîne depuis déjà pas mal de temps hein, sur les finances de la France. C'est pas nouveau. Et même quand on regarde le spread France-Allemagne, il se dégrade lentement depuis plusieurs mois, pas violemment. C'est quelques dizaines de points de base. C'est pas un grand décalage, mais ça rajoute une petite pression au gouvernement. Je pense que c'est plutôt sain parce que quand le budget de la dette, enfin le coût de la dette devient le premier budget, ça interroge, ça quand même, ça pose un problème dans le déploiement des initiatives d'un gouvernement et d'un État. Donc c'est plutôt une pression saine de se dire, il y a un moment donné. Enfin, je pense que c'est assez logique. Plus les taux montent. Et je pense que c'est le moyen le plus simple pour que des gouvernements deviennent un peu plus raisonnables dans leur gestion budgétaire.
Et c'est sain que ça arrive au moment où on va avoir quand même des besoins de financement stratégiques liés aux transitions énergétiques, démographiques, de défense, etc. C'est sain que ça arrive à ce moment-là.
En fait, ça arrive toujours au mauvais moment. Ah bah... Ça, systématiquement, c'est obligé. Donc ça, je pense que malheureusement, il va falloir, ça oblige à faire des choix et ça oblige à gérer de manière stratégique ses finances. On aurait sûrement pu faire des choses différentes au taux zéro qu'on n'a pas forcément fait, malheureusement. Je ne suis pas sûr qu'on ait capté cette opportunité de taux zéro autant qu'on aurait pu le faire sur des besoins stratégiques, malheureusement. Mais bon, c'est une autre histoire. Maintenant, ça demande de gérer son budget et de gérer des priorités. Ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Après, tant qu'on en est dans ce rythme-là, je pense que c'est plutôt positif. Cette petite musique-là, il ne faut pas qu'elle se poursuive trop longtemps parce qu'après, le mauvais effet, c'est à un moment donné où le marché vous force.
Ouais. Et là, ça devient de l'austérité.
Là, ça devient un vrai problème. On n'y est pas du tout et non. On a encore du temps, je pense, mais il faut rester prudent. Je pense que là-dessus, les gouvernements le savent.
Oui, j'espère.
Oui.
Non, mais... Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement sur la France, il est plutôt un peu à contre-tendance de ce qu'on a observé en Europe récemment, post-Covid notamment, avec une amélioration des finances publiques, ou en tout cas des notations crédit, des qualités de crédit qu'on a pu voir sur la périphérie, Portugal, Espagne, Italie,
c'est d'autres pays qui y sont déjà passés.
Oui, mais qui remontent du fond.
Ils connaissent l'histoire. Oui. Nous, on a été plutôt bien privilégiés
sur
toutes ces périodes-là. Oui. Privilégiés même.
Oui, privilégiés. La Grèce étant revenue en catégorie investment grade, je le rappelle, après les années historiquement compliquées de la crise souveraine. Bon, commentaire sur cette situation de notation financière.
Oui, c'était surprenant que la notation de la France.
D'accord.
Et en tout cas, je...
Il y avait une anomalie. Même du point de vue clinique, froid, rationnel de l'investisseur, il y avait quand même une anomalie. Oui. Et que cette dégradation, elle aurait pu intervenir à...
Je sais que ce n'est pas le saint des saints, et il ne faut pas toujours regarder les ratios, il faut regarder les dynamiques, etc. Mais on a pris quand même pratiquement 20 points de pourcentage depuis la dernière dégradation. On était à 90 plus. Ouais. Là, on est à 110, enfin, à fin 2023, on était à 110,6% ratio dette sur PIB. Donc, à un moment, il faut acter ça. Alors, je crois que je vais certainement pas regarder précisément les agences de notation, mais bon, Moody's a maintenu donc l'équivalent d'un double A. Donc c'est la dernière. Bon, et je pense que S&P aussi était un petit peu plutôt en retard. Ils avaient donné un petit sursis en fin d'année. Et puis finalement, est-ce que c'est pas bon, tout le monde. Enfin, en tout cas, les politiques poussent un petit peu, disant oh là, bon, ça fait jamais plaisir de se prendre ça. Mais d'un autre côté, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là, vous allez attaquer les discussions sur le budget de l'année prochaine. Vaut mieux arriver avec une, disant bon bah regardez, il faut qu'on continue de se financer, oui ou non. Donc bon, faut qu'on fasse des efforts. Et aussi, moi, enfin là, on va un peu s'écarter. D'un point de vue politique, je trouve quand même que c'est un peu dur. Enfin, j'ai bien dit, je fais pas de politique, mais le gouvernement en place qui a effectivement ouvert les vannes, puisque le 90-110, en gros, c'est le Covid, hein, et puis aussi des mesures d'aménagement de l'inflation. Donc, tout le monde a dit bah oui, il faut les mettre en place, on va quand même sauver notre économie, ou en tout cas, on va aider les ménages à lutter contre l'inflation. Et puis maintenant, ces mêmes personnes disent bon attendez, vous n'êtes pas disciplinés, c'est quoi ce budget, comment vous voulez, bon bref,
au moins c'est sûr que c'est pas en mars 2020 quand Bercy mettait en place les PGE qu'on entendait les gens crier au loup en disant oh là là, vous faites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi.
Voilà. Après, la situation de la France, je pense, ce rating reflète la situation aujourd'hui de la France, et la bonne nouvelle c'est qu'on a une perspective stable, donc bon, on a quand même quelques temps pour être dans le prochain cycle. Et en gros, rendez-vous dans quelques années sur ce sujet précisément.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thierry Leclerc, AlphaJet Fair Investors et Benoît Vesco de Lubac Asset Management.